Bonsoir à tous. Retour évidemment ce soir sur cet événement. Hier en Deux-Sèvres, le passage de la flamme olympique qui traversera la Vendée demain. La SAFER veille sur le foncier agricole, des terres souvent très convoitées pour lesquelles l'opérateur doit parfois trancher. Le directeur de la MFR de Montcoutan va prendre sa retraite dans quelques semaines. En 20 ans, Patrick Pavageau a triplé les effectifs. Enfin, les joueurs de palais du département ont rendez-vous samedi à Mauléon pour la Coupe des Deux-Sèvres en individuel.
Météo à l'issue du journal avec du beau temps, donc en ce début de semaine.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sera à Bressuire demain, dans la dernière ligne droite avant le scrutin de dimanche et les élections européennes. Et sur invitation du député de la circonscription des Deux-Sèvres, Jean-Marie Fiévé, le ministre de la Justice, sera ainsi présent dans le cadre d'un meeting de la liste de la majorité présidentielle. C'est à 19h à la salle des congrès de Bressuire qu'Éric Dupond-Moretti entend convaincre les éventuels indécis et galvaniser les troupes à quelques jours du vote.
La flamme olympique a traversé le département des Deux-Sèvres ce dimanche.
Un événement unique avec un vrai engouement populaire. Des milliers de personnes de Thouars à Niort en passant par Bressuire, Parthenay, Saint-Mexant, Selles-sur-Belle et Coulon. À Bressuire, une jeune femme de 18 ans, Eléa Billot-Squarnec, a vécu un moment unique et a mesuré à sa juste valeur l'engouement dans sa ville avant même de prendre le relais dans la rue Gambetta, sous les yeux de sa famille et d'inconnus, heureux d'être là.
On se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir participer à ça, en fait, pouvoir faire partie de ce grand comité de porteurs de flammes. On n'est que 10 000, j'ai envie de dire, dans la France. C'est un honneur d'avoir pu faire ça et c'est vraiment... J'ai vu ma famille en descendant, ils avaient tous fait des pancartes et tout, donc c'est surprenant parce que moi, forcément, ils sont restés dans la confidence, ils ne m'avaient pas prévenu. Donc c'est vraiment surprenant. Et puis tout le monde fait coucou, en fait. Il y a des gens que j'avais jamais vus de ma vie, mais en fait, il y a tellement l'ambiance, je sais pas, l'ambiance flamme, en fait. C'est festif, quoi. C'est vraiment, tout le monde est content, donc on se rend compte que là on est en train de faire un truc qui est peut-être exceptionnel, je sais pas, voilà, donc c'est assez impressionnant, ouais.
Avec en plus un beau cadeau à la fin, hein, un morceau de la flamme là.
Oui, c'est sûr que c'est quelque chose, encore une fois, collector, c'est un privilège qu'on a et je pense que c'est un beau souvenir qu'on pourra garder toute notre vie, quoi. C'est des choses à partager, c'est des choses à montrer et je pense que c'est vraiment une preuve entre guillemets de notre engagement parce qu'on a été sélectionné peut-être pour nos capacités sportives mais moi c'était beaucoup aussi pour l'aspect associatif, en fait, tout mon engagement en parallèle.
La Bressuraise Eléa Billot-Squarnec a eu le privilège de porter la flamme dans sa ville, ce qui n'a pas été si courant et ce que certains ont d'ailleurs regretté. En effet, des porteurs étaient inconnus localement, mais néanmoins très honorés de porter cette flamme à l'image de Blandine Bécheras, salariée du COJO, le comité organisateur depuis 2018. Elle vit de l'intérieur cet événement unique. Elle est également au micro de Vincent Nori.
Magnifique. Accueil grandiose des Deux-Sèvres, de Bressuire aussi. Vraiment bien, j'étais avec des relayeurs du coin, puisque c'est une grande joie de voir que les Jeux, ce n'est pas que Paris, c'est toute la région, toute la France, et surtout tous les petits clubs de taekwondo, de rugby, les clubs locaux, c'est tout ça qui font les Jeux, et on est tous là pour faire du sport.
Est-ce que vous aviez mesuré ça quand vous travaillez là-haut à Paris, de tout ce que ça peut générer en province?
Alors on sait que ça existe parce qu'on suit, moi-même je suis de province aussi, donc je sais ce qui se passe dans mon Ardèche natale, mais on le sait parce qu'on apprend et on lit les choses, on a des communications internes, mais venir le vivre avec les gens du cru, j'allais dire, c'est quand même une belle expérience. On a tous une passion, la passion du sport, la passion de la bienveillance, la passion de la paix, des initiatives collectives. Et je crois que c'est un peu ça le relais de la flamme, c'est porteur de toutes ces notions, de tous ces bons moments d'être ensemble et autour du sport, autour de la joie, autour de bons moments ensemble.
Et de la joie, il y en a eu aussi beaucoup pour toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont plongé à fond dans la cheuche synchro qui fait un carton depuis plusieurs mois maintenant. Vincent Piguet, le créateur du phénomène, était à Bressuire hier pour ambiancer l'après-midi dans le village de la flamme.
C'est la cheuche, ça appartient à tout le monde, c'est un phénomène, tu vois, j'ai même pas besoin d'en faire plus que ça, les gens ont envie de s'amuser, et à Bressuire, c'était des très bons chenillistes.
On arrive à prendre conscience du phénomène que vous développez là?
Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours chenillé, et j'ai toujours ambiancé les gens, je suis aussi comédien, et donc oui, c'est cool de pouvoir faire ça, que les gens partent dans mon délire un peu second degré, mais en fait qui devient premier degré, tout le monde s'amuse, on en fait un sport, on en fait un show, et ça rapproche surtout les gens, donc c'est cool.
Le bouquet final du passage de la flamme s'est déroulé à Niort, sur la place Chanzy, avec l'allumage du chaudron. C'est la jeune Perrine Marcheteau qui a allumé ce fameux chaudron. La basketteuse Saint-Maixentaise, bénévole à la Croix-Rouge, 18 ans, était la dernière relayeuse de cette journée de Sévrienne. Perrine Marcheteau au micro de D4B.
Je m'en rendrai compte, je pense, demain, après-demain ou la semaine prochaine, mais c'est juste exceptionnel. C'est une chance que j'ai. Vraiment, je m'en rends compte. 65 allumages de chaudron contre 10 000 porteurs de flammes, c'est juste incroyable, exceptionnel. Je remercie vraiment tout le monde qui me soutient et le département qui m'a choisi. C'est énorme, c'est super émouvant pour moi. J'ai perdu mon papy il y a une semaine. Je porte la flamme pour lui et le fait d'avoir su il y a quelques jours que je pouvais embraser le chaudron, c'est... Qu'attendre de mieux, c'est pas possible. C'est du partage, du sport, de l'engagement, inculquer des nouvelles valeurs, des valeurs déjà existantes aux plus jeunes, aux plus anciens, et c'est génial.
Et après une pause, ce lundi, le parcours de la flamme reprendra demain, mardi, en Vendée, au départ du passage du Gois, Fontenay-le-Comte, ensuite, puis le Puy du Fou, La Roche-sur-Yon et enfin les Sables d'Olonne pour achever cette journée de la flamme ce mardi.
Colline l'info près de chez vous, édition du soir, il est 18h09.
Pas toujours facile de retenir tel ou tel exploitant plutôt qu'un autre, mais c'est bien là l'une des missions de la SAFER qui, en tant qu'opérateur foncier polyvalent, doit donner son avis pour l'attribution des terres agricoles, souvent convoitées, la preuve par la démonstration à Saint-Amand-sur-Sèvre où deux agriculteurs souhaitaient racheter 35 hectares de terre à un exploitant qui cédait sa ferme pour prendre sa retraite. Le premier acquéreur voulait agrandir sa ferme voisine. Le deuxième, hors cadre familial, souhaitait la reprendre après y avoir travaillé pendant 6 mois. C'est le projet de cette dernière en élevage ovin qui l'a emporté. Le président de la SAFER des Deux-Sèvres, Patrice Coutin.
Eh bien, quand il y a plusieurs candidats, puisqu'aujourd'hui le foncier c'est une denrée rare et non renouvelable, donc il sollicite effectivement beaucoup de convoitises. Lorsque la SAFER prend une position sur tel ou tel candidat, elle doit tout simplement justifier ses choix. Et par rapport à ça, eh bien, évidemment que nous avons l'installation. L'installation est importante, disons, sur un territoire comme les Deux-Sèvres. Ensuite, nous n'oublions pas aussi restructuration des exploitations agricoles. Il y a aussi des exploitations pas si pourvues au niveau surface, aux moyens de production, qui ont aussi besoin d'être consolidés. Donc, ces critères-là. Et derrière tout ça, bien entendu, il y a le projet, effectivement, des candidats, bien sûr, qui comptent. Ils nous arrivent régulièrement aussi de pouvoir suivre un dossier. On met avis favorable sous réserve d'installation dans un délai qui peut courir sur quelques mois. Voilà.
C'est ainsi que Marion Billot a pu s'installer et bénéficier d'un dispositif de soutien qui lui a permis d'alléger son investissement foncier à la Bicoulière de Saint-Amand. Explication du technicien SAFER Martial Créon.
La SAFER avait remarqué que si on voulait installer des jeunes, il y avait souvent trop de capitaux au départ pour les jeunes. Et c'était un frein, voire parfois ça empêchait les installations parce qu'il y avait les bâtiments achetés, le cheptel acheté, le matériel acheté, parfois une maison. Et puis quand il fallait rajouter 30 ou 40, 50 hectares de terre, c'était impossible, ça ne pouvait pas se faire. Donc l'idée, c'était en fait de différer une partie des investissements. Et pour le faire, la SAFER a la capacité d'acheter les terrains. Donc on a acheté les terrains, ce qu'on appelle du portage, et de dire on vous promet de revendre ces terrains dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez fini de rembourser certains de vos emprunts. On le fait que pour les jeunes.
Et pour éviter la spéculation des terres, la SAFER a acheté pour 150 000 euros les 35 hectares convoités. L'éleveuse de Saint-Amand pourra les racheter lorsqu'elle aura la capacité d'investir de nouveau. Marion Billot.
Mais ça permettait d'enlever une grosse épine du pied quand on est jeune, qu'on s'installe près de 150 000 euros de foncier. Enlever cette grosse enveloppe, ça permet justement de favoriser l'installation et pour justement pérenniser l'élevage et puis donner à manger aux brebis. Je travaille avec 2 races, une 100aine de brebis romanes et 100aine de brebis vendéennes qui sont toutes en monte naturelle avec 2 périodes d'agnelage qui me permet d'avoir des agneaux pour Pâques et des agneaux pour Noël.
Un renouvellement de génération assuré avec cette exploitante qui a par ailleurs bénéficié du soutien de l'OVICAP, le pôle ovin et caprin de la CAVAC, qui lui permet d'étaler le financement de son cheptel de 237 brebis sur 5 à 6 ans. Reportage de Jacqueline Pinon. Sur l'agglo de B, les inscriptions au transport scolaire 2024-2025 sont ouvertes depuis le 1er juin et se termineront le 30 juin pour les inscriptions papier, le 15 juillet pour les inscriptions en ligne. Les familles recevront les cartes scolaires courant août pour les inscriptions réalisées avant cette date limite. Après cette date, la réception de la carte avant la rentrée n'est pas garantie. Celle-ci étant obligatoire pour pouvoir prendre le car, il est impératif de respecter les délais.
Patrick Pavageau, directeur de la MFR de Montcoutan, sur le départ à la retraite.
Lors de son discours au moment de l'inauguration des nouveaux locaux et des agrandissements de la maison familiale, Patrick Pavageau a annoncé son grand départ après 20 ans de bons et loyaux services au sein de la MFR de Montcoutan. Un peu plus de 62 ans, Patrick Pavageau tire le bilan de son aventure montcoutantaise marquée par un développement assez remarquable.
Eh bien, l'heure de la retraite approche. Alors, même si dans ma tête, j'y ai pas encore trop pensé, mais je laisse ma place effectivement à partir du 31 août. C'est-à-dire qu'au 1er septembre, un nouveau directeur sera en place à Montcoutan. Je ne peux pas vous donner son nom puisqu'il n'est pas encore complètement recruté. Les médias en seront informés et je transmettrai le flambeau comme j'ai essayé de conduire depuis 2004 que je suis là, comme j'ai toujours su le faire et essayer de le faire pour surtout développer la maison familiale de Montcoutan, puisque quand je suis arrivé en 2004, nous étions 8 salariés. Aujourd'hui, nous sommes 23. Il y avait 62 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 élèves. C'est une grande fierté. C'est la troisième inauguration que je fais en 20 ans ici à Montcoutan, à chaque fois pour des agrandissements ou toujours pour les jeunes. Ces belles salles de travaux pratiques, puériculture. Je crois qu'il n'y a pas d'autres aussi belles comme ça dans le département. Et pour les jeunes, c'est vraiment super. J'ai toujours, ma mission a été toujours pour les jeunes. Ma volonté a toujours été de faire grandir ces petits jeunes qui nous arrivent et en faire des futurs adultes de demain.
Patrick Pavageau va donc savourer ses dernières semaines à la tête de la MFR de Montcoutan avant de prendre sa retraite.
Les joueurs de Palais ont rendez-vous samedi à Moléon.
Pour la première finale de la Coupe des Deux-Sèvres en individuel, pour un sport pratiqué habituellement en équipe, cette fois-ci les joueurs s'affronteront en 1-1, un événement organisé par le Palais 79 avec le nouveau club moléonnais sous l'égide du comité départemental du sport en milieu rural. Le président André Landry nous détaille les spécificités du Palais Fonte sur Plomb en individuel.
Partie en 13, donc attribution du maître avant de commencer par pile ou face. Et la particularité, c'est que le joueur qui va marquer le point devra donner le maître à l'adversaire. Pour donner la chance aux deux joueurs, exactement. Normalement, quand on commence la partie avec le maître, on a plus de chances de coller le petit que partir en deuxième position. Donc voilà, et partie en 13 avec trois palais, ça peut aller très vite. On a choisi la salle Sainte-Anne à Moléon car c'est un grand complexe et puis on peut installer toute une intendance extérieure pour tout ce qui est restauration, consommation. C'est plus agréable quand il fait beau aussi. Cette compétition, elle est ouverte aux licenciés du CD 79, mais elle est ouverte à tous les Deux-Sèvriens et Deux-Sèvriennes de tout âge. Nous sommes là pour la promotion du Palais en Deux-Sèvres.
Le Palais 79 compte 350 licenciés répartis au sein de 9 clubs. Pour la finale de la Coupe des Deux-Sèvres en individuel, ce samedi à Moléon de 9h à 21h, les inscriptions sont limitées à 192 joueurs fin mai. La semaine dernière, il y avait 80 inscriptions. Les inscriptions se prolongent donc jusqu'au 7 juin. On termine avec le rebond de Laurent Villa à Strasbourg après 3 saisons à Cholet. Le Catalan retrouve un poste à la SIG. On souhaite évidemment le meilleur au coach qui a permis à CB de retrouver un certain standing.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Eh bien, du beau temps, mon capitaine.
Oui, avec un lundi bien ensoleillé, des températures plus conformes à la saison. Du beau temps également demain mardi, même si les nuages prennent plus de place. Des nuages inoffensifs, un léger vent demain. Température stationnaire, 11-12 degrés pour les minimales, 22 à 24 degrés pour les maximales. On devrait avoir le même type de temps pour la suite de la semaine.
Merci Fabien pour toute l'info près de chez vous. Dernier rendez-vous aujourd'hui, retour demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bemanangi. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.